CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste reporter pour CD Média et je suis en compagnie de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Salut Mickaël.
Sylvain, l'entrepreneur d'aujourd'hui est autant connu que le nom de la boîte qu'il a lancée. Ses produits sont parmi les plus utilisés quotidiennement et on peut dire qu'il a chamboulé les univers qu'il a touchés du doigt. Pourtant, rien ne laissait présager que ce futur milliardaire à tête d'hippie deviendrait un jour une icône. Découvrons l'origine du succès de Steve Jobs, le fondateur d'Apple.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Steve Jobs, il est né le 24 février 1955 à San Francisco.
Oui, en effet, il est né à San Francisco. Alors, il ne s'appelait pas Jobs au moment de sa naissance, puisque Jobs, c'est le nom de ses parents adoptifs, donc Paul et Clara Jobs. Donc, ses parents, enfin, ont eu une grossesse indésirée. Son père était un étudiant d'origine syrienne, sa mère une américaine. Et le père de cette dame ne voulait surtout pas que sa fille ait un enfant ou se marie avec un musulman. Donc c'était un peu compliqué. Et donc ses parents ont fait une démarche d'adoption dès sa naissance. Et c'est pour ça qu'il a pris le nom de Steve Jobs, puisqu'elle a été adoptée par la famille, donc le couple Paul et Clara Jobs. Et d'ailleurs, lui considère que ses vrais parents, même si ce n'est pas ses parents biologiques, c'est les Jobs, c'est ses parents adoptifs. Il aura toujours un lien, qui considérera un lien de filiation avec ses parents adoptifs.
Il a une enfance banale, on peut dire même une scolarité sans éclat.
Oui, c'est pas quelqu'un comme par exemple Edison ou Elon Musk où dès l'enfance ils ont des résultats extraordinaires en sciences, ils ont une scolarité brillantissime. C'est l'enfance assez standard de la classe moyenne américaine. Son père travaille dans l'électronique, mais enfin un poste assez standard. C'est pas du tout un grand entrepreneur ou un grand chercheur. Donc il vit dans la région de San Francisco. Il a une scolarité, comme tu le disais, assez standard. Il n'est ni mauvais élève, ni brillant. Et donc, c'est vraiment, l'enfance de l'Américain moyen. Et il n'y a pas forcément grand-chose qui peut laisser supposer qu'il deviendra cet entrepreneur emblématique qu'on connaît aujourd'hui.
Il est intéressé par l'électronique quand même.
Oui, alors il est intéressé par l'électronique, il bricole un petit peu des premiers ordinateurs, enfin des premiers gadgets. Par exemple, il va appeler William Hewlett, donc cofondateur de Hewlett-Packard, qui est dans la région. Hein. On est en pleine Silicon Valley, parce qu'il a besoin de pièces pour son bricolage. Donc il regarde dans l'annuaire, il trouve son numéro, il l'appelle, il dit j'ai besoin de pièces. Il est ado, hein, il a 13-14 ans. Et Hewlett Packard lui dit bien sûr, viens, j'ai te passer ce qu'il faut. Et puis il lui donne un job d'été en plus. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, on retrouve chez Hewlett Packard cet esprit Silicon Valley. On a fait un épisode dessus.
Oui, c'est un peu les inventeurs de l'image, un peu de l'esprit de la Silicon Valley.
Oui, c'est vrai que souvent on associe la Silicon Valley à Steve Jobs, mais en fait les précurseurs de cet esprit inventif, ouvert, où on essaie de parfois de céder les uns les autres, même si on est en concurrence, c'est vraiment Hewlett-Packard. Et d'ailleurs, Steve Jobs, qui avait, on va dire, la critique plus prompte que le compliment, toute sa vie dira du bien de Hewlett-Packard, de l'entreprise comme de ses fondateurs.
Et d'ailleurs, on peut dire, vous pouvez l'écouter dans l'épisode spécial Hewlett-Packard, mais on appelle l'esprit de la Silicon Valley l'HP Way.
Oui, l'HP Way, donc... On va pas tout dire parce qu'on a fait un épisode exprès, mais c'est en fait l'esprit, l'image qu'on a de la Silicon Valley. En gros, c'est l'HP Way. Et donc, c'est eux qui ont inventé ça. Et Steve Jobs s'est, disons, un peu placé dans cette roue-là. Il a continué à creuser ce sillon.
Petit teaser pour un autre épisode que vous allez écouter sur notre chaîne. Il faut savoir que cette période, c'est aussi la période où il va rencontrer deux personnes assez importantes dans sa vie future, ce petit Steve Jobs.
Oui, alors la personne, on va dire, la plus importante, c'est Steve Wozniak, qui est un petit génie de l'informatique. Parce que Steve Jobs, alors, c'est un bricoleur, il s'intéresse à l'électronique, à l'informatique, aux sciences, mais c'est pas forcément un génie scientifique. C'est pas lui qui va avoir les idées absolument révolutionnaires. on va dire le petit génie de la bande, c'est plutôt Steve Wozniak qui sera vraiment l'inventeur, le cerveau à la base d'Apple quelques années plus tard. Et oui, il rencontre aussi par exemple Ronald Wayne qui va être un cofondateur d'Apple quelques années plus tard. Donc voilà, en gravitant un peu dans ce milieu de l'électronique, de l'informatique naissant dans la région de San Francisco, il développe des compétences, un peu des réseaux, il crée des connaissances, et voilà, petit à petit, ce réseau de connaissances va devenir évidemment Apple.
Et pendant ses études supérieures, il a un peu un changement de vie, il va commencer à épouser un style de vie qui va lui coller un peu à la peau toute sa vie.
Oui, alors quand on pense à Steve Jobs, c'est un peu l'entrepreneur hippie. Donc on revoit ses photos des années 70, quand il avait les cheveux longs, qui faisait des régimes à base de carottes, qui se lavait pas, qui partait en Inde dans des ashrams, qui se droguait. D'ailleurs, il a dit que c'est très bien de se droguer parce que ça ouvre l'esprit. Enfin, il y a un peu ce côté voilà, qu'on n'attend pas forcément d'un milliardaire, mais qui est devenu un petit peu, d'une certaine façon, l'emblème de ces entrepreneurs de la tech un peu décalé, un peu excentrique. Donc ça il développe ça pendant ses études. Donc des études d'ailleurs, souvent les entrepreneurs de la Silicon Valley, ils ont fait Stanford, la très grande fac très prestigieuse. Lui, pas du tout, il étudie à Reed College, donc une petite université de l'Oregon. D'ailleurs, il va pas étudier très longtemps parce que ça lui plaît pas énormément. Il étudie un peu la calligraphie, donc les designs d'écriture qui lui servira après pour Apple. Mais c'est pas du tout l'étudiant brillant qui va révolutionner la théorie informatique pendant son doctorat, par exemple. Et en fait, il arrête assez vite ses études.
Et il va plutôt côtoyer les milieux alternatifs plutôt que les geeks de son collège.
Oui, alors il côtoie un peu tout le monde, mais il passe beaucoup de temps à faire la fête, à fumer des pétards, à se préoccuper de spiritualité, de tout un tas de choses. Disons, le Steve Jobs étudiant, on l'imagine pas encore chef d'une multinationale et multimilliardaire, quoi.
Tu l'as dit, 20 ans, il quitte les cours, il décide de retourner chez ses parents et il va trouver un premier emploi.
Oui, alors il trouve un premier emploi en 74 chez Atari. Donc c'est une boîte de jeux vidéo d'origine française d'ailleurs. Donc il va travailler à peu près un an dans cette entreprise. Et après, il a bien sûr des idées autres qui germent dans sa tête, avec notamment son copain Steve Wozniak. Et il commence à bricoler leur premier ordinateur, donc dans le garage de ses parents. C'est un peu l'emblème du garage de la Silicon Valley. Hein. Hewlett-Packard avait eux-mêmes commencé dans leur garage. Et il commence à bricoler leur premier ordinateur. Donc on est au milieu des années 70. Et c'est comme ça qu'ils vont fabriquer le premier ordinateur Apple, l'Apple 1, en 75.
Voilà, donc cet Apple 1, il sort. Il a été créé dans un garage, c'est un peu le mythe de la Silicon Valley. Et pourtant, ce n'est pas le premier succès d'Apple. C'est pas un succès de
Non, ce n'est pas un succès énorme. Ils en vendent, quoi, ils en produisent et vendent 200 exemplaires. Donc, on appelle ça un ordinateur. Aujourd'hui, si on le verrait, ça ne ressemble pas à ce à quoi on pense quand on pense à un ordinateur. Il n'y a pas encore l'écran, il n'y a pas encore la souris, il n'y a pas encore le clavier. C'est une machine qui, en fait, ne peut être utilisée que par des gens qui sont eux-mêmes un petit peu informaticiens. Donc, c'est encore assez embryonnaire. Et ils fabriquent ça dans leur garage, donc ça ne peut pas prendre des proportions énormes. Donc, non, ce n'est pas forcément le succès financier immédiat. D'ailleurs, le cofondateur, Ronald Wayne, qui avait 10% des parts, se dit « Bon, moi, j'abandonne l'aventure. » Il revend ses 10% pour $800. Bon.
Ouf.
Voilà, quand on sait ce que
vaut 10% d'Apple.
Voilà, 10% d'Apple aujourd'hui, ça doit être quelque chose comme 200 milliards de dollars, non, quelque chose comme ça.
Ouais, donc,
à vue de nez.
Oh là là, t'imagines.
Bon, après, il pouvait pas savoir non plus. Mais voilà.
Il avait peur, en fait, d'être un peu la cible des créanciers,
oui,
si ça marchait pas.
Oui, il avait. L'entreprise était un peu endettée. Lui, c'était le plus vieux de la bande, donc c'était un peu celui qui avait le plus de patrimoine. Il s'était dit, si ça foire, c'est moi qui vais devoir éponger les dettes. Donc voilà, c'est-à-dire, ça montre qu'en fait, ses premiers pas, c'était pas forcément le succès financier tout de suite, et qu'il y avait certains partenaires actionnaires qui se disaient, bon, ce truc-là, ok, c'est bien gentil, mais ça va pas marcher.
Le premier succès d'Apple, c'est l'Apple II, l'ordinateur Apple II, et c'est en 1977.
Oui, donc Steve Jobs et Steve Wozniak, alors ils n'ont pas encore touché le jackpot, mais ils sont passionnés par ce qu'ils font, et ils disent, on tient un filon, il faut qu'on continue. Donc ils sortent un deuxième ordinateur, l'Apple II, qui là, pour le coup, commence à ressembler un peu plus à ce qu'on conçoit comme étant un ordinateur, et qui là va être effectivement un premier succès. Alors c'est pas encore Apple tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais l'entreprise sort de son garage, commence à industrialiser sa production.
Ah, il faut quitter le garage, là.
Oui, on ne peut pas toujours rester chez papa-maman. Arrive un moment, il faut sortir du nid. Et donc, c'est le début, on va dire, vraiment de Apple, qui d'ailleurs rentrera en bourse 3 ans plus tard, en 1980. À ce moment-là, Steve Jobs, voilà, il est encore tout jeune, mais il devient multimillionnaire. Et là, vraiment, Apple est lancé sur les rails. Ça va devenir la multinationale qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, l'entrée en bourse, on n'a jamais vu ça depuis très longtemps.
Oui, c'est un succès. Hein, alors des fois, il y a des entreprises qui rentrent en bourse et puis le cours s'effondre juste après. Là, c'est pas du tout le cas. Le cours augmente et en fait, il n'a pratiquement fait qu'augmenter depuis. Et surtout, ça permet aussi à l'entreprise de lever des fonds. Hein. C'est bien pour ça que les entreprises rentrent en bourse. Elles lèvent des fonds pour financer leur croissance. Et donc, c'est le cas d'Apple hein, qui lance de nouveaux produits. Il y a l'ordinateur Lisa. Le projet Lisa qui est un petit peu tombé à l'eau et qu'on a un peu oublié, et le projet qui est plus connu, qui est le Macintosh, qui deviendra là un des produits phares d'Apple et qui va lui permettre de continuer sa croissance.
Et c'est là aussi où on commence à dessiner un peu le portrait de Steve Jobs en tant que patron de boîte, puisque au sein d'Apple, il n'hésite pas à être dur avec les employés, à les monter les uns contre les autres.
Oui, alors Steve Jobs, c'est pas... Alors on a toujours l'image de l'entrepreneur hippie, etc. Mais c'est pas forcément quelqu'un de toujours très sympathique. Il y a des fois, il est très cassant avec ses salariés, il gare sa voiture sur les places handicapées, il dit j'en ai rien à foutre. Enfin, c'est pas... C'est un peu un personnage, à plusieurs facettes. Et dans sa gestion des ressources humaines, il n'est pas forcément très, très, très empathique, c'est pas forcément le patron le plus sympa de la Terre. Et il peut être très cassant en entretien d'embauche, il peut pressurer ses salariés, donc c'est... Il y a le côté Steve Jobs hippie, un petit peu peace and love, et puis il y a le Steve Jobs qui dirige sa boîte et qui peut être un peu plus à poigne, disons.
Il avait monté les équipes du projet Lisa contre les équipes du projet Macintosh pour faire une sorte de compétition interne.
Oui, donc il y avait ces deux projets de produits qui se développaient en parallèle. Et donc lui avait, comme tu le dis, hein, avait essayé de créer une compétition entre les deux pour que chacun essaie de se dépasser, ce qui crée aussi une ambiance parfois assez détestable. Donc c'est une stratégie de management qui est plus par la pression qu'on va mettre en disant « Regarde, il y a un autre projet qui se développe, si tu vas pas assez vite, de toute façon, on coupe les budgets et t'es viré. » Donc c'est plus le management par la pression que par la compassion ou la chaleur humaine, quoi.
Et d'ailleurs, il le sait hein, qu'il a des lacunes en termes de management, de gestion d'entreprise, puisque en 83, puisque lui, on le rappelle, c'est quand même la tête pensante de la boîte, et Wozniak était plutôt le technicien, il y est pour rien, lui, hein, dans les ordinateurs. En tout cas, donc en 83, il décide de déboucher un grand patron pour l'aider à gérer Apple.
Oui, il va débaucher le patron de Pepsi, John Sculley, je ne sais plus exactement comment on prononce son nom, mais donc... Voilà, Steve Jobs, donc, comme tu l'as dit, c'est pas le technicien, ça c'est plutôt Wozniak, et puis ensuite tout un tas d'informaticiens qui va embaucher. Et effectivement, il se rend compte qu'il a besoin d'autres compétences à la tête de l'entreprise. Et donc, il va faire rentrer, alors, à la fois d'autres actionnaires, on l'a vu avec l'entrée en bourse, à la fois un autre dirigeant. Le problème, c'est qu'à force de diluer son pouvoir dans l'entreprise, quand il y a, disons, une mésentente, eh bien, il se retrouve sur un siège éjectable. Et évidemment, Michael, tu vois où je veux en venir.
Bien sûr, puisque en 84, il sort donc Macintosh, grosse pub, on en a parlé de fou à l'époque, et c'est encore une des pubs mythiques.
Oui, c'est la fameuse pub où, alors à l'époque, IBM était l'acteur dominant de l'informatique, et il y a cette pub donc pendant le Super Bowl, donc le foot américain, leur grand événement, il y a donc quelqu'un qui est une lanceuse de marteau, une athlète qui jette un grand marteau dans un écran pour casser symboliquement pour casser le monopole d'IBM. Et le slogan, c'est l'année 1984 ne sera pas comme 1984, le roman de George Orwell. Sous-entendu, IBM, c'est le Big Brother qui vous suit partout. Donc Steve Jobs, c'est un... En fait, il faut le dire, c'est un excellent communicant. C'est pas un technicien, mais c'est un visionnaire et un communicant. Et donc, c'est une pub qui... et d'ailleurs, on en parle encore. Voilà, quand on parle de Steve Jobs et d'Apple, on parle de cette pub de 1984. Toutes les autres pubs, on les a oubliées. Donc, qui marque la culture de l'entreprise et qui aide aussi à la croissance de Apple.
Et donc, on y vient. Il sort donc Macintosh, mais c'est pas un grand succès. Macintosh, ça se vend pas beaucoup et donc du coup il commence à y avoir des divergences au sein de Apple.
Oui, alors c'est un succès, on va dire tiède. C'est pas la cata, mais c'est pas le succès qu'on aurait pu attendre. Et c'est vrai que entre Steve Jobs, le nouveau PDG qu'il a fait rentrer, d'autres actionnaires, etc. Bon, la personnalité de Steve Jobs un peu rugueuse n'aide pas. Donc il y a une dissension et Steve Jobs tout simplement se fait virer hein, à ce moment-là, au milieu des années 80. Donc il se fait virer de l'entreprise qu'il a cofondée. Ça peut arriver. Hein, c'est pas, si un créateur d'entreprise vend beaucoup de ses actions, ben, il perd le contrôle de son entreprise. Et donc, il doit se réinventer. Il est un peu mis à la porte. Alors, bon, c'est pas malheureux. Hein, il est multimillionnaire. Enfin, ça va très bien pour lui.
Oui, mais il y a quand même une petite traversée du désert.
Voilà,
hein.
Il y a une petite traversée du désert. C'est-à-dire que, bon, émotionnellement, on se doute que c'est quand même un choc. Et donc, il va rebondir. Hein, c'est un peu ça aussi, le mythe Steve Jobs. C'est-à-dire qu'il a... Il a eu des hauts, des bas, il a su rebondir à chaque fois. Donc il va créer une première boîte informatique Next, qui est un peu sur le même créneau qu'Apple, qui développe des ordinateurs, alors qu'il va pas... aujourd'hui, Next, on a oublié, ça a été racheté par Apple. Et aussi, une autre entreprise qu'il a lancée et dont on se souvient plus, c'est les studios Pixar.
Oui, donc Pixar a été créé en 86, mais en 95 sort le gros succès, c'est Toy Story. Il a fallu du temps pour le faire, mais c'est un gros succès.
Oui, alors entre-temps, il y a eu d'autres films, hein, des courts-métrages, d'autres expérimentations. Mais le premier film à gros budget, à gros succès de Pixar, c'est Toy Story, qui marque un petit peu une rupture, parce que c'est la première fois qu'un film d'animation long-métrage est produit en entier et qui rencontre un énorme succès commercial. Et donc, grâce à ça, Steve Jobs revient sur le devant de la scène. On l'avait un petit peu oublié, mais il est toujours là. Et donc, c'est un succès financier, mais aussi très important, c'est un succès symbolique pour lui. Et c'est ce qui va lui permettre de revenir chez Apple, qui, entre-temps, Apple a plutôt un peu végété.
Oui, parce qu'une semaine après le lancement de Toy Story, il y a entrée en bourse de Pixar, donc c'est malin, c'est un jackpot pour lui.
Ah oui, c'est un nouveau jackpot, en effet.
Et pendant ce temps, chez Apple, c'était plutôt le déclin.
Oui, parce que l'autre entrepreneur de l'informatique qui a pris l'ascendant au début des années 90, c'est Microsoft avec Bill Gates. Hein. D'ailleurs, la rivalité Steve Jobs-Bill Gates qui donne un peu du piment au personnage. Et donc, l'acteur dominant, alors avant c'était IBM, après c'est devenu plutôt Microsoft. Et Apple, au milieu des années 90, est plutôt un second couteau parmi tous ces géants. Et donc, l'entreprise va se dire, bah, en fait, il y a ce Steve Jobs qui connaît bien Apple, qui réussit, est-ce qu'on pourrait pas le faire revenir dans la barque? Et donc, il va revenir, en fait, chez Apple.
Ils vont racheter Next pour le faire revenir.
Voilà, ils vont racheter Next à la fois parce que, vu que c'est des produits un peu similaires, il y a des synergies possibles. Et puis, c'est comme ça un moyen de faire revenir Steve Jobs qui va reprendre, en fait, tout simplement le contrôle d'Apple et la remettre sur les rails et en faire l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui.
Mais ça a passé par une grosse restructuration d'abord.
Oui, alors forcément, parce qu'il y avait Apple végétait plutôt à cette époque-là, il y avait des choses à changer, il fallait intégrer Next, des synergies à créer, etc. Donc Steve Jobs remet un petit peu tout ça à plat à la fin des années 90 et il lance des nouveaux projets, donc l'iMac, cet ordinateur, bon, aujourd'hui il fait un peu préhistorique, mais enfin avec
cette
espèce de bulle avec des couleurs flashy.
Mais c'est vrai que quand il est sorti en 98, c'était une vraie révolution.
Oui, c'était une révolution à la fois technique et puis en termes de design. Steve Jobs a toujours accordé beaucoup d'importance au design et à l'esthétique de ses produits. Alors, on pourrait se dire, bah, un ordinateur, c'est un ordinateur et point final. Lui avait une vision différente. Il y a vraiment ce design Apple que les clients...
Mais d'ailleurs, c'était le slogan d'Apple, Think Different.
Oui, alors ça a été on a dit que Steve Jobs était un communicant, un génie de la communication. Et il y a eu toute cette campagne de pub Apple où il y avait des portraits de Picasso, de différentes personnes qui n'avaient rien à voir avec la tech, avec ce slogan juste Think Different. Donc penser différemment. Et on ne parlait pas d'Apple, on ne parlait pas de ce qu'il faisait, juste ce slogan Think Different. Qui est vraiment la marque de la personnalité de Steve Jobs et qui colle à l'image qu'on a d'Apple encore aujourd'hui.
Et il se crée un peu, sans faire exprès, l'image du sauveur de la boîte, du sauveur d'Apple.
Oui, alors, sans faire exprès, je sais pas, parce que objectivement, c'est un petit peu le cas. Hein. Oui. C'est lui qui a redressé Apple. Donc, il y a eu l'iMac, après, il y a eu l'iPod, il y a eu l'iPad, il y a eu l'iPhone, il y a toutes ces déclinaisons de i. Il y a eu les Apple Store, hein, ces magasins Apple auxquels personne ne croyait.
On ne croyait pas au début.
Donc c'est des magasins avec une ambiance très particulière. Hein. Il y a très peu de produits, on rentre là-dedans, on est presque seul avec 3 ordinateurs et 15 vendeurs. Et personne ne pensait que ça pourrait marcher, mais en fait ça a très bien fonctionné. Il y a eu le Steve Jobs dans sa manière de communiquer avec ses conférences quand il lançait un nouveau produit et qu'il arrivait sur scène et qu'il faisait un peu son show. Depuis, tout le monde fait ça, mais ça, c'est lui qui l'a inventé. Donc, sur les produits, sur la com, sur le design, il a vraiment inventé quelque chose de nouveau.
Il innove et il n'écoute pas les opinions. C'est ça qui est important, c'est qu'il décide lui-même, il n'écoute pas les enquêtes d'opinion.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux écoles là-dedans. Il y a l'école, on va dire, Thomas Edison, qui se dit « je veux inventer un produit en pensant déjà à qui va l'utiliser, est-ce que ça répond à un besoin, etc. » Et il y a l'école Henry Ford et Steve Jobs qui dit « de toute façon, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. » Henry Ford disait « si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient dit un cheval qui va plus vite. Ils n'auraient pas dit une voiture. » Donc cette autre école est de dire que de toute façon, le client n'a pas la vision de ce qu'il veut. Donc il faut que l'entrepreneur ait sa vision et qu'il lui propose quelque chose. Et quand le client voit ce produit, il se dit « bah oui, c'est logique, c'est ça qu'il me fallait ». Donc Steve Jobs, c'est vraiment cette école-là, c'est l'école Henry Ford. Et donc c'est vrai qu'il n'écoute pas forcément les conseils ou les enquêtes d'opinion ou ce qu'on peut lui dire. Il est un peu têtu parfois, et d'ailleurs il a sûrement eu raison de l'être. Et donc il lance des produits, l'iPad, bon, pas grand monde y croyait non plus. Et c'est ça en fait qui fait qu'il est un entrepreneur un petit peu emblématique, parce que du coup il apporte des produits nouveaux, originaux, il prouve qu'il a raison parfois contre tout le monde ou contre la majorité, et c'est en ça qu'il forme sa légende.
Steve Jobs, c'est avant tout un style.
Oui, c'est un style. Alors c'est le style des produits, c'est le style du personnage, avec ses pulls à col roulé, avec son célèbre discours de Stanford, hein, le soyez insatiable, soyez fou, comme ça, un peu des phrases sur changer le monde. Il faut avoir cette envie, cette ambition qu'il affiche, qui est parfois presque un peu agaçante, presque un peu arrogante, de dire je suis là pour changer le monde. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui a, au-delà de son entreprise, qui a forgé son personnage et qui a aujourd'hui, voilà, quand on pense Silicon Valley ou informatique, on pense à Steve Jobs avec ses cheveux longs et ses régimes, ses phrases, les slogans, etc. Donc il est devenu un petit peu l'emblème de l'entrepreneur californien qui commence dans son garage, quoi.
Et contrairement à Bill Gates, lui, il n'a jamais été philanthrope.
Alors non, c'est quelqu'un qui, on l'a dit, qui parfois peut être un peu, voilà, un peu cassant, un peu froid. C'est pas le genre à donner de l'argent à droite à gauche pour des causes humanitaires ou ceci cela, comme le font en fait la plupart des milliardaires. Voilà, lui ce qui l'intéresse, c'est son entreprise, c'est de changer le monde à partir de son entreprise et de ses produits. Et il n'a pas cherché à se mettre en avant avec des dons, des programmes, des fondations. C'est pas du tout la personnalité de Bill Gates. Hein. Ça a été deux concurrents à la vie, à la mort, avec deux personnalités totalement opposées.
Et deux richesses opposées. Bill Gates est beaucoup plus riche que Steve Jobs. Et pourtant, peut-être que Steve Jobs est un peu plus emblématique que Bill Gates.
Oui, c'est vrai. Alors, bon, Steve Jobs, on ne va pas se plaindre pour ses fins de mois. Mais, mais c'est vrai qu'en termes de richesse, Bill Gates était de patrimoine, de fortune. Bill Gates était devant parce qu'il avait une part importante des actions de Microsoft. Donc, c'est vrai qu'en termes de fortune, alors aujourd'hui, bon, Bill Gates est dépassé par Elon Musk, Jeff Bezos et d'autres. Mais la personnalité à laquelle on associe la fortune, c'est plus Bill Gates que Steve Jobs.
Steve Jobs était malade sur les dernières années de sa vie.
Oui, il avait un cancer donc qui a duré assez longtemps avec des opérations, des hauts et des bas. Mais il a fini par décéder en 2011, hein, ça fait déjà plus de 10 ans. Et son entreprise, comme on le sait tous, a continué sur sa lancée parce qu'il a vraiment, imprimé sa marque sur Apple, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, le style Apple, on va dire, donc ce positionnement haut de gamme, donc de produits chers, de qualité, avec le design un peu particulier qu'on connaît, il l'a insufflé de manière suffisamment forte pour qu'en fait ça puisse lui survivre.
Il a réussi à faire ce qu'il n'avait pas réussi à faire la première fois, parce qu'il avait quitté la boîte trop tôt.
Voilà, d'une certaine façon, c'est vrai que dans les années 80, Apple, c'était une entreprise en croissance, mais c'était encore, on va dire, une grosse start-up. Hein, et l'acteur dominant, c'était à l'époque IBM. Et là, Apple est devenu l'acteur, sinon dominant, en tout cas un des acteurs dominants de l'informatique. Et ensuite, de la téléphonie, puisque Apple a su prendre le virage de la téléphonie, du smartphone, contrairement par exemple à Nokia, qui a complètement raté ce virage-là.
C'est donc sa façon d'être et d'entreprendre, plutôt que sa fortune, qu'on retiendra de Steve Jobs, Sylvain. Et c'est ce qui fait que sa réussite est si belle. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Je rappelle, Sylvain, que cette histoire est tirée du tout premier tome de ta série de livres Entrepreneur de Légende. Il y en a eu plein d'autres depuis. Le tout dernier, c'est Entrepreneur de Légende, qui est sorti il y a quelques semaines et qu'on peut retrouver partout. Et c'est chez les éditions Hendrick B. Vous pouvez réécouter tous nos épisodes, évidemment, sur toutes les bonnes plateformes audio. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager à vos amis, vous pouvez dire que vous aimez et vous pouvez nous envoyer des messages, ça nous fait plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur CDI Podcast. On vous dit à très bientôt.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.